Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Et oui, c'est donc la fête à Paris grâce à une exposition qu'il faut voir, qu'il faut courir aller voir, qu'il faut voir et revoir. C'est l'exposition Velázquez, le Grand Palais met à l'honneur jusqu'au 13 juillet prochain. Et en 51 toiles, celui que l'on surnomme désormais depuis longtemps le peintre des peintres, de Goya à Bacon, en passant par Manet, Picasso, la liste est longue. De ceux qui ont entretenu avec Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, dit Diego Velázquez ou Velázquez, peut-être Vela, qui sait, un dialogue silencieux en forme d'hommage. Velázquez n'est pas seulement le peintre des peintres, c'est le peintre des puissants, des bouffons, des bodégones, des nains, des dieux, des chevaux, des chiens, des ménines, qui sait, aussi bien capable d'apporter de l'air dans sa peinture que de se concentrer sur un infime détail. Velázquez fascine autant qu'il intrigue, à la manière de ses clairs-obscurs, de ses premières années ou de ses dernières toiles. La vie du peintre est faite de zones d'ombre et de courants d'air qui continuent parfois d'égarer ceux qui le cherchent. Arrivera-t-on un jour à percer le mystère Velázquez? Et après tout, faut-il le percer? Comment un peintre de cour a-t-il pu à ce point influencer et révolutionner l'histoire de l'art? Les œuvres de Velázquez incarnent-elles à elles seules les splendeurs et les misères du siècle d'or, ou bien posent-elles les fondations de ce qu'allait être la peinture moderne, la peinture des siècles suivants? Pour partir avec nous ce matin à la recherche de Velázquez, du peintre des peintres, nous recevons Araceli Guillaume Alonso. Bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'université de la Sorbonne et spécialiste de l'Espagne du XVIIe siècle. Nous sommes aussi avec Guillaume Kintz, dit-on. Bonjour.
Bonjour.
Le commissaire de l'exposition qui se tient au Grand Palais. Vous êtes aussi conservateur au département des peintures du musée du Louvre et spécialiste de la peinture espagnole et aussi sud-américaine. Nous rejoindrons tout à l'heure au téléphone Bartolomé Benassar, historien, romancier, spécialiste de l'Espagne et auteur d'une biographie de Velázquez intitulée « Velázquez, une vie » parue aux éditions de Fallois et qui reparaît en 2010. La première question tout de même, Guillaume Kintz, pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour avoir à nouveau une exposition consacrée à Velázquez à Paris?
Alors, pas seulement à nouveau une exposition Velázquez, une exposition Velázquez, puisqu'en fait, il n'y a jamais eu d'exposition Velázquez organisée en France, qui peut paraître très surprenant.
Ah oui,
jamais. Non, ça peut paraître effectivement surprenant eu égard à l'importance que ce peintre a eue pour nos grands peintres depuis le 19e siècle et à l'importance que la France a participé à donner à Velázquez. Velázquez n'en avait sans doute pas besoin en tant que tel, mais c'est la France qui a permis la grande redécouverte de Velázquez dans le monde entier, en dehors de l'Espagne, à partir du 19e siècle. Alors, pourquoi? C'est une bonne question. Tout d'abord parce que pendant la vie de Velázquez, pendant le XVIIe siècle, les rapports entre la France et l'Espagne sont des rapports très intimes, mais assez belliqueux.
Il a failli venir en France et quick, ça n'a pas marché.
Exactement, il a demandé à pouvoir rentrer en Espagne après son second voyage à Rome. À travers les terres, par la France, il dit qu'il veut voir Paris. Le roi, qui s'impatiente du retour de son premier peintre, eh bien le fait mettre dans le premier bateau pour l'Espagne. Et puis, il y a peu de Velázquez dans les collections publiques françaises, puisqu'il y en a un
Orléans.
Un à Rouen. Peut-être un au Louvre, en tout cas c'est ce que je propose, mais qui est déposé depuis 66 ans.
Pourquoi
au musée.
Peut-être
Parce que c'est un tableau qui a été longtemps considéré comme une copie d'atelier, mais qui a subi ce déclassement aussi parce que le tableau était peu vu et parce que l'œuvre était très encrassée. Et donc là, nous avons fait des études de laboratoire, nous l'avons restaurée parce qu'elle nous semblait très prometteuse. Et je trouve personnellement qu'elle tient ses promesses. J'ai convaincu déjà un certain nombre de mes collègues sur ce point et l'exposition jugera.
Si j'en juge par quelques atours de votre prénom et de votre patronyme, Araceli Guillaume Alonso, vous êtes espagnol?
Je suis espagnol d'origine, oui.
Velázquez, ça veut dire quoi quand on dit Velázquez? Velázquez en espagnol.
Velázquez en Espagne, c'est une évidence. Mais je pense qu'il devrait être une évidence partout, mais en Espagne, c'est absolument une évidence.
Vous trouvez ça choquant qu'il n'y ait jamais eu d'exposition Velázquez en France, à part jusqu'à celle-ci, qu'organise Guillaume Kintz?
Je trouve ça absolument étonnant et je dirais même choquant, oui. C'est très très étonnant de la part de la France. Oui, peut-être que ça traduit, je ne sais pas, des vieilles résistances à ce 17e, ce 16e et ce 17e siècle espagnol.
Quelle résistance?
Des résistances peut-être à reconnaître cette influence que l'Espagne a eue sur la France.
Mais pourtant,
Manet, culturel.
Manet le premier, après tout, l'avait
adoubé. Oui, c'est vrai.
Un des premiers.
C'est vrai qu'après Manet, c'est plus étonnant encore.
Mais il faut surtout comprendre ce que c'est qu'une exposition. Une exposition, c'est le résultat de travaux d'historiens de l'art. Et effectivement, il y a assez peu d'historiens de l'art, et je suis le premier à le déplorer, je crois que nous sommes au moins deux autour de cette table. Okay. Il y a assez peu d'historiens de l'art qui s'intéressent à l'Espagne en France. Mais surtout les expositions, la naissance des expositions, c'est comment tirer des perspectives à partir des collections, à partir des œuvres conservées dans les différents musées français. Et la rareté des œuvres de Velázquez dans les musées français, sa quasi-absence, voire son absence du musée du Louvre, fait que le réflexe Velázquez n'était pas inscrit. On a fait, par exemple, une exposition Zurbarán, très importante, en 1988. Alors, ça date, vous me direz, mais parce que Zurbarán est plus ancré dans notre culture visuelle et dans notre culture tout court. Le réflexe Velázquez n'existait pas, et je dois le dire très, très sincèrement, que si le musée du Prado ne nous avait pas dit, nous avait pas convaincu de traiter Velázquez, nous n'en aurions pas eu l'idée tout seul, parce que ce n'est pas inscrit dans...
C'est donc grâce aux Espagnols que cette exposition se tient à Paris. Dites, Guillaume Kintz, c'est bien sérieux de faire une exposition Velázquez sans les Ménines?
C'est non seulement bien sérieux, mais c'est absolument nécessaire. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Pardon, ça, je vais essayer de ne pas être trop
non,
long
ni confus. Non, attendez, est-ce que c'est sérieux ?
Oui, c'est éminemment sérieux.
Il n'y a pas les Ménines, quoi. Vous imaginez une exposition de Léonard de Vinci où on ne verrait pas la Joconde.
Mais il y a une exposition de Léonard de Vinci qui va avoir lieu à Milan, ou qui a peut-être même lieu à Milan en ce moment, dans laquelle il n'y a pas la Joconde. Mais le problème, c'est que ces œuvres, comme la Joconde, comme les Ménines, sont des œuvres qui dépassent l'artiste, qui dépassent le pays, qui dépassent le siècle, qui dépassent même le statut d'œuvre d'art. C'est ce que j'appelle des œuvres monuments, et le principe des monuments, c'est qu'on ne les fait pas venir à soi, mais qu'on va à eux. Il y a un pèlerinage des Ménines qui est tout à fait intéressant. Pensez une seconde à ce qu'auraient été les Ménines dans l'exposition du Grand Palais. Où est-ce que je la mets concrètement? Dans la première salle?
Une seule salle à part.
Oui, mais au début, à la fin, au milieu? Ou si je la mets dans la première salle, qu'est-ce qu'on peut voir après les Ménines? Rien, il faut repartir. Si je la mets dans la dernière salle, qu'est-ce qu'on regarde avant? Rien, on court.
Donc il faut aller à Madrid, hein, Araceli, Guillaume Alonso.
J'abonde dans le même sens, je pense aussi que c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Si on met les Ménines au milieu d'une exposition aussi merveilleuse que celle qu'on nous présente au Grand Palais, quelque part le reste risque d'être un petit peu occulté par ces Ménines, parce qu'il va y avoir un engouement, parce que c'est l'œuvre des références, celle que tout le monde connaît. Alors que justement cette exposition du Grand Palais, qui a énormément de vertus pour moi, je ne l'ai vue qu'une fois encore, mais j'ai très envie d'y retourner très très vite, c'est qu'on nous présente côte à côte des œuvres que nous n'avons pas l'habitude de voir côte à côte, parce qu'elles viennent des collections très variées. Et il y a aussi, je le dis en présence du commissaire, un choix d'accrochage qui est particulièrement heureux, avec véritablement des salles qui vous prennent quand vous rentrez dans la pièce. C'est époustouflant des beautés et des trouvailles, je dois dire, même par moment, n'est-ce pas? Par exemple, le chapitre autour de l'Immaculée Conception, là on a vraiment, on en a plein la vue, et puis on le voit tout de suite en arrivant, vous voyez, avec un ensemble des sculptures, des peintures, vraiment, et les deux Immaculées de Velázquez, je pense que c'est la première fois qu'elles sont côte à côte. Bref, et je pense que les Ménines auraient quelque part un tout petit peu trop attiré l'attention, et cela aurait occulté l'importance du reste qui est magnifique.
Bon, mais parce que quand même, il faut bien s'accorder à dire quoi, que les Ménines, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre.
C'est chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, mais c'est pas forcément le chef-d'œuvre de Velázquez. En fait, je veux dire, ça va au-delà du chef-d'œuvre de Velázquez. En termes de testament pictural, les fileuses, à mon avis, sont beaucoup plus le testament de Velázquez en tant qu'artiste. Les Ménines, on n'a pas le temps de approfondir la question, mais c'est un tableau accidentel qui était au départ un tableau dynastique. Au moment où l'infante Marguerite était désignée ou allait être désignée comme héritière de la couronne, et puis la reine est enceinte, il y a un garçon qui naît. Qu'est-ce qu'on fait avec ce tableau? Donc on transforme ce tableau, on met le portrait de Velázquez là-dedans, on transforme ça un peu au forceps peut-être en allégorie de l'art et en triomphe de la peinture. Évidemment, les premiers critiques au début du XIXe siècle, comme Palomino, vont en faire le podium de la peinture, mais Palomino n'est pas neutre, il est artiste, il veut proclamer la dignité du... Et donc, du coup, tout le monde s'est engouffré dans les Ménines jusqu'à Foucault, et divinement bien, et c'est absolument passionnant, mais c'est un tableau qui risque d'enfermer Velázquez.
Cela dit, quand on est devant les Ménines, comme moi il n'y a pas très longtemps à Madrid, on ne s'en sort pas.
Mais c'est justement pour ça qu'il faut...
On reste pour rester des heures devant ce tableau.
Mais c'est justement pour ça, il faut conserver aussi pour le public, c'est rendre service au public, que ce tableau ne quitte pas le Prado et que cette expérience soit unique et élue au Prado.
Voilà, un peu de publicité pour Madrid à la
Céline,
oui, Guillaume Alonso.
Oui, je pense effectivement qu'il faut faire le pèlerinage, comme notre ami a dit tout à l'heure. Et je pense aussi, on a évoqué les fileuses, du point de vue, je suis tout à fait d'accord avec lui, le coup de pinceau de cette fin déjà des vies de Velázquez sur ces fileuses, c'est ce pinceau qui fait des poils multiples avec plein de petit coloris quand on regarde de près, qui est léger, la pâte devient légère. C'est vraiment quelque chose qui ouvre vers la peinture de plus tard, et même la peinture beaucoup plus tard. Et je pense que les fileuses ou les Ménines sont très bien à Madrid et qu'il faut y aller et les voir in situ.
Alors le mystère Velázquez sur la question biographique, est-il percé selon vous, Guillaume Kintz? Est-ce que sa peinture nous renseigne sur l'homme qu'il était?
Je ne sais pas si sa peinture nous renseigne sur l'homme qu'il était. Je ne pense pas que la peinture ait vocation, d'ailleurs, à nous renseigner sur l'homme qui, sur l'homme qu'il était. Et personnellement, c'est trop, j'en discutais il y a très peu de cette question avec un éminent historien de l'art qui est Pierre Rosenberg. Au fond, l'homme qu'il était, on s'en fiche un peu. En tout cas, nous, historiens de l'art, c'est le peintre qu'il était qui nous fascine. C'était peut-être un sale type, je pense pas. Mais c'est possible, ça ne doit pas entacher son œuvre.
Ah ben voilà, les clichés qui arrivent à grands pas dès qu'on évoque Velázquez. Ben nous, ça nous intéresse à savoir qui était Diego Velázquez. Figurez-vous, Guillaume Kintz. Et je vais même vous dire une chose, on a réussi, c'est le tour de force de la radio, à l'avoir au téléphone. Hola, ¿qué tal, Diego Velázquez? Vous m'entendez, monsieur Velázquez? Merci, monsieur Diego Velázquez, de nous rejoindre au téléphone pour cette exposition qui vous est consacrée au Grand Palais. Vous avez peut-être lu la biographie, monsieur Velázquez, que vous consacre Bartolomé Benassar, publiée aux éditions de Fallois, qui fait dire que justement, on sait peu de choses de vous parce que vous avez peu écrit, je ne sais si vous vous y êtes mis d'ailleurs depuis, mais que pensez-vous de ce que l'on dit de vous, que tantôt vous êtes antipathique, Diego Velázquez, ou tantôt, comme le disait le roi, que vous êtes un peu flemmard. Où est la vérité, Diego Velázquez?
Je ne crois pas être antipathique. Excusez mon français qui n'est pas excellent, je parle mieux l'italien.
Je vous en prie.
Mais je ne pense pas être antipathique. Écoutez, je constate tout de même que plusieurs de nos serviteurs du palais m'ont demandé d'être le parrain de leur enfant avec ma femme marraine. Est-ce qu'ils le feraient s'ils estimaient que j'étais si antipathique que cela? Voilà. Alors,
vous avez affranchi un de vos esclaves lors d'un de vos voyages. En Italie?
Oui, c'est vrai. J'aurais dû la franchir plus tôt. Juan de Pareja méritait que je la franchisse avant. Mais au moins, je lui ai fait quand même un cadeau parce que j'ai fait de lui...
Son portrait.
Un portrait que les Italiens ont trouvé quand même de qualité.
Pardonnez-moi, j'aurais dû commencer par le début. Vous êtes bien né, je vérifie, hein, en 1599 à Séville, monsieur
oui,
Velázquez?
Oui, juste avant la fin de ce siècle, oui.
Quelle était l'atmosphère à Séville pendant votre petite enfance et votre formation chez monsieur Pacheco?
Oh, vous savez, Séville, à ce moment-là, c'était un monde, parce qu'il passait à Séville des quantités de gens qui partaient pour les Indes et d'autres qui en revenaient. Il y avait aussi des financiers italiens qui étaient intéressés par les arrivées d'argent, de produits, etc. C'était un véritable monde qui, évidemment, était l'Espagne, était l'Europe, mais était déjà les Indes aussi. Ah, vous voyez, si j'ai un regret, c'est de ne pas être allé aux Indes.
De ne pas être allé aux Indes et de ne pas être allé à Paris.
Oui, alors ça c'est vrai, j'aurais voulu, j'avais déjà d'ailleurs obtenu d'un diplomate français qu'il me donne un visa pour la France lorsque j'étais en Italie, mais j'étais resté très longtemps en Italie et le roi me réclamait, il me faisait réclamer par ses diplomates qui me disaient qu'ils recevaient des lettres de Philippe et qu'il fallait que je rentre. Alors j'ai dû me résigner à ne pas passer par la France, mais c'était un regret. C'est un regret.
Dites, Diego Velázquez, on se demande parfois si vous n'êtes pas plus courtisan, homme d'affaires, voire antiquaire ou brocanteur, que peintre, parce que vous avez passé votre temps, tout de même, à être débauché, quel sculpteur, mouleur, peintre italien de Rome à Milan et je ne sais où encore, à Vérone, pour remplir le futur et améliorer le palais du roi que Philippe IV voulait le plus beau et vous en confiant la décoration. Dites, Diego Velázquez, vous êtes peintre ou décorateur?
Mais c'était la mission que m'avait donnée le roi et je ne pouvais pas la trahir. D'autre part, vous le savez, les Italiens ne tenaient pas, sauf exception, à vendre leurs œuvres. Et par conséquent, j'ai bien été obligé de faire des moulages, d'engager toute une équipe. C'est d'ailleurs, je ne dis pas que ce soit la seule, mais c'est d'ailleurs une des raisons de mon long séjour en Italie, puisque il fallait préparer toute une série de caisses, s'assurer qu'elles seraient transportées dans de bonnes conditions. Vous voyez tout de même, j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai d'ailleurs été obligé d'engager une véritable équipe. Heureusement, de ce point de vue-là, le roi et ses représentants en Italie m'ont quand même donné l'argent qui était nécessaire pour réussir cette entreprise.
Oui, le roi n'était pas content que vous ne rentriez pas assez vite en Espagne, Diego Velázquez. Je crois savoir aussi que vous avez profité un peu des plaisirs de la vie en Italie.
Ah, écoutez, tout de même...
Est-ce qu'on peut le dire ici, vous avez eu une maîtresse?
Oui, c'est vrai.
Et un enfant?
Oui, en effet, un fils. Ouais. Un fils que je n'avais pas eu en Espagne.
Oui. Et vous êtes fier?
Je suis fier. Beaucoup d'hommes ont des enfants.
Nous reviendrons avec vous, bien sûr, tout à l'heure, dans la deuxième partie des matins. Je voudrais vous faire écouter un confrère à vous, si j'ose dire, un collègue à vous, un autre peintre qui parle de vous. Écoutez-le, il s'agit de Francis Bacon.
Quels sont les peintres chez qui vous avez cherché le plus ou vous avez trouvé le plus?
Le plus, j'ai trouvé dans Cimabue, dans Rembrandt et dans Velázquez.
Et dans Goya?
Moins. Pour moi, même que j'admire énormément, mais moins. Parce que Velázquez était plus exact, dans un sens. Il a aussi déformé l'image dans une façon beaucoup plus intéressante. Pour moi, c'est plus direct.
Oui.
Les images sont conjurées de l'air, de l'atmosphère. Dans une façon, ils sont déformés et la couleur est magnifique, meilleure que Monet. Vous savez, plus exact, plus profond. Et il a trouvé cette chose de faire la profondeur de l'image liée avec la couleur, qui est déjà une chose extraordinaire.
Voilà ce que disait de vous Francis Bacon, Diego Velázquez en 64. Vous êtes d'accord? Ça correspond à votre peinture? Diego Velázquez,
Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis très flatté que... je puisse penser que je suis de la taille au moins de Goya ou même peut-être encore plus grand, mais ça, ce n'est pas à moi de le dire. Moi, j'ai vécu avec la peinture. J'ai vécu avec la peinture depuis mon enfance jusqu'à ma mort. Et même lorsque le roi m'a demandé d'organiser son voyage avec celui de Marie-Thérèse.
Bien sûr.
Jusqu'à l'île des Faisans.
Avec Louis, oui, pour rencontrer le jeune Louis XIV.
Voilà, eh bien, je pensais à la peinture. Je pensais à la peinture. Quand on s'est arrêté à Valladolid, au retour, et que j'ai assisté au fête donné en l'honneur de mon roi, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses encore que je n'avais pas peintes et que j'aurais voulu peindre.
Nous reviendrons avec vous sur toutes ces questions, Diego Velázquez, dans la deuxième partie des matins. Vous dites que vous pensiez à la peinture. Si j'ai bien lu Bartolomé Bélassar, dans la biographie qu'il vous consacre, vous pensiez aussi beaucoup à vos vêtements, très coquets, tout de même.
Écoutez,
victime de la mode.
Oui, et puis de toute façon, j'allais me trouver dans un parterre de princes à l'île des Faisans. Il fallait tout de même que je sois digne du rôle qui m'avait été confié.
A tout à l'heure, Diego Velázquez. La deuxième partie des matins sera introduite par El Caballero, Brice Couturier.
Ben, je vous parlais un petit peu de philosophie. Vous vous souvenez que les mots et les choses de Foucault commencent par une formidable méditation sur le fait de représenter par les Ménines dans Velázquez, le fait qu'il a élidé le motif en le rappelant simplement au fond en miroir. Est-ce que vous pensez, vous, que Velázquez était un homme suffisamment intelligent et avait suffisamment médité sur son art pour avoir été capable d'une telle réflexion, d'une réflexion d'une telle profondeur avec tellement d'avance?
Voilà, nos invités répondront tout à l'heure à 8h15 à Araceli Guillaume Alonso, Bartolomé Bélassar, qui sait, Diego Velázquez aussi, et Guillaume Kintz, France Culture, 8h01.